invite à vous relever. Notre espérance est en Dieu. Sa parole plantée dans notre cœur, nos yeux rivés sur la beauté du chemin qui l'éclaire, et nos bouches pour chanter, nous recevons de lui la grâce, la miséricorde et la paix. Amen. Ainsi parle le Seigneur, dit Isaïe, qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes. Ne vous rappelez pas le passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau, dès maintenant, cela germe. Ne le savez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride pour faire boire mon peuple. Nous prenons notre recueil pour y trouver la page 68 et y chanter le psaume 47, les trois strophes. Psaume 47, page 68.
Du jour pour louer le Seigneur. du chef de chœur sur Biche de l'Aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint, tu habites les louanges d'Israël. En toi, nos pères avaient mis leur confiance. Ils avaient confiance et tu leur donnais d'échapper. Ils criaient vers toi et ils échappaient. Ils mettaient leur confiance en toi et ils n'avaient pas honte. Quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un ver, outragé par les humains et méprisé par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête, remettent ton sort au Seigneur. Il lui donnera d'échapper, il le délivrera, puisqu'il a pris plaisir en lui. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi j'ai été jetée depuis le sein maternel. Depuis le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Une multitude de taureaux m'entoure, des bêtes du Bashan me cernent. Ils ouvrent contre moi leur bouche comme un lion qui déchiquette et rugit. Je me répands comme de l'eau et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'entourent, une troupe mauvaise m'encercle, ils me lacèrent les bras et les jambes, je peux compter tous mes os. Eux, ils observent, je leur suis offert en spectacle. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique.
Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Délivre-moi de l'épée. Délivre ma vie de la griffe des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes de l'aurore. Tu m'as répondu. Je parlerai de ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du pauvre. Il ne se détourne pas de lui. Quand celui-ci l'appelle au secours, il l'entend. C'est de toi que viennent les louanges dans l'assemblée nombreuse. Je m'acquitterai de mes vœux devant ceux qui te craignent. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, que votre cœur vive à jamais. Toutes les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur et se tourneront vers lui. Tous les clans des nations se prosterneront devant lui. Car le règne appartient au Seigneur, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira, On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra dire sa justice au peuple qui naîtra, car il a agi. Je vous invite à vous lever
pour chanter le psaume 116, page 132, les strophes 1 à 4, 1 à 4.
Dieu, c'est ta présence que nous te demandons, non seulement pour cet instant de prière, mais pour toute notre vie. En devenant humbles, nous nous penchons vers Dieu. Celui qui nous connaît, connaît aussi nos espoirs, il connaît aussi nos faiblesses. Au moment de ta passion, nous est révélé que notre vie est précieuse et dès lors nous nous engageons à la respecter en respectant celle des autres. Amen. Tout en restant assis, nous prenons maintenant dans notre recueil, page 538, le chant 3701 et maintenant nous y chantons les strophes numéro 1 et numéro 2. 3701, strophes 1 et 2. Page 538. Nous recevons la déclaration du pardon. Je vous le déclare, c'est la vérité, dit le Seigneur. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Que tous ceux qui se convertissent dans la foi reçoivent en Jésus-Christ l'assurance de leur pardon. Amen. Nous pouvons nous relever pour chanter la strophe 3 du même chant.
Ésaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellée, je ne me suis pas dérobée. C'est pourquoi je n'ai pas été confus. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à du granit, sachant que je n'aurai pas honte. Nous prenons la strophe 4 du même chant. Les paroles que nous allons entendre ce matin, qu'elles deviennent nourriture pour nos vies et partage pour nos proches. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphage, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et il les laissera aller tout de suite. » Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, sur lesquels ils mirent leurs vêtements,
Il s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna » pour le fils de David. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra à Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait « Qui est-il, celui-ci ? » Les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth de Galilée. »
Les récits de l'entrée de Jésus dans Jérusalem, présents avec des détails et des contextes différents dans les quatre évangiles, marquent, comme chacun le sait, l'entrée dans ce que la tradition chrétienne appelle la semaine sainte. Une semaine sainte, c'est-à-dire, si l'on se réfère au mot hébreu correspondant, une semaine mise à part, une semaine réservée. La tradition chrétienne a désigné cette semaine comme une invitation à faire mémoire de la passion de Jésus-Christ, et le premier jour de cette semaine, comme vous le savez, est appelé par les chrétiens la fête des rameaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'éventail des récits qui racontent cette entrée à Jérusalem. Puis, je vous ferai part d'une difficulté fondamentale pour comprendre véritablement ces récits. Et enfin, je vais tracer une voie pour que nous puissions malgré tout les comprendre. Un programme ambitieux pour une prédication. Je disais, selon les évangiles, des détails ou des contextes différents. À propos des détails, par exemple, selon Jean, il n'y a pas de manteau, et selon Luc, il n'y a pas de rameau. Il n'y a même pas de branche ou de palme, comme le dit Jean. Des détails encore, selon Jean, la foule est immense. Pour Matthieu, vous l'avez entendu, et aussi selon Marc, c'est juste une foule, on va dire, normale. Mais pour Luc, il apparaît toute une multitude caractérisée comme étant tous des disciples. Comme vous l'avez remarqué, encore ces derniers temps, il est toujours difficile de compter les gens. La définition d'un nombre, d'une part, et aussi la qualification des gens dans une foule, d'autre part, sont souvent victimes de biais. Quand Luc parle de disciples, il dit encore, par rapport aux autres, quelque chose de supplémentaire. Surtout qu'il en évoque une multitude. Détail encore, selon Jean, selon Marc et selon Luc, c'est un ânon, un petit âne, sur lequel Jésus se tient. Et dans Matthieu, vous l'avez entendu, l'ânon n'est pas séparé de sa mère qui l'accompagne. Encore, dans Jean, Matthieu et Marc, on trouve cette référence au prophète Zacharie, au chapitre 9, dite à la communauté de Sion, « Voici ton roi vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un petit âne, le petit d'une bête de somme. Cette référence, eh bien, on ne la trouve pas dans Luc. Pourquoi ? Sans doute parce que le public de Luc, qui a des multiples origines et non juives, n'aurait pas été sensible à cette citation d'un prophète inconnu. Voilà pour les détails. Regardons les contextes. Pour Jean, c'est la troisième fois que Jésus accomplit un pèlerinage lors d'une grande fête à Jérusalem. Pour les trois autres évangiles, c'est la seule fois où ce pèlerinage de Jésus est mentionné. Contexte différent encore. Après cet événement de l'entrée de Jésus dans Jérusalem, Jean et Matthieu disent que Jésus directement chasse les marchands du temple. Marc dit, lui, d'abord, qu'avant de faire ça, il ira maudire un figuier. Et Luc raconte que d'abord, il va pleurer sur Jérusalem. Pourquoi je raconte ça ? Eh bien, pour vous sensibiliser à deux choses. D'abord, vous l'avez remarqué, les détails et les contextes ne sont pas si différents que ça. Cela peut donc corroborer l'historicité de l'entrée de Jésus à Jérusalem à l'approche de la Pâque juive. Et ça, c'est important de le savoir, que les évangiles racontent quelque chose qui n'est pas que symbolique, qui a pu réellement arriver. Au-delà des commentaires, Jésus entre dans Jérusalem sur un petit âne ou sur une ânesse. Mais ces détails et ces contextes différents révèlent néanmoins des angles de vue différents. Et si on poussait plus loin, ce qu'on ne va pas faire ce matin, on verrait des nuances importantes dans les compréhensions par chaque évangile de l'événement en question. Et ces nuances, en fait, sont très bénéfiques pour nous, parce qu'elles nous laissent libres d'avoir notre propre compréhension. Et je ne dis rien là d'original, puisque vous le savez, face à n'importe quelle relation de ce qu'on appelle un fait, il nous faudra toujours distinguer au maximum le fait du commentaire dans lequel l'enveloppe des personnes plus ou moins bien intentionnées est plus ou moins subtile. Les évangiles sont des témoignages qui ont des angles de vue différents, et la diversité assumée de ces angles nous laisse libres, nous, d'utiliser ou non notre intelligence et aussi notre honnêteté critique. Mais je vous raconte ça aussi pour faire le lien avec la deuxième partie de ma prédication. Je vais parler, effectivement, de notre difficulté contemporaine à pouvoir réellement comprendre ces textes. Une difficulté qui souvent n'est pas reconnue, ou une difficulté qui est peut-être parfois reconnue, mais par respect mise sous le boisseau. Considérant ma carrière, j'ai dû prêcher 36 fois sur l'un ou l'autre des textes relatant l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et qu'ai-je fait ces 36 fois ? J'ai tenté au maximum de présenter l'événement en le remettant autant que possible dans la temporalité et dans la culture dans laquelle il se déroule, de façon à faire sentir à l'audience le mouvement de la tragédie qui est ici en train de s'opérer. Pour sensibiliser à ce mouvement, eh bien, il faut partir de cette joie exprimée par une foule plus ou moins consistante, tout en sachant que cette joie va s'estomper sous les colibés d'un procès inique et va disparaître totalement dans l'ombre d'une croix infamante. Maintes fois, j'ai parlé de l'ânon, du petit âne, symbole positif de paix et non de guerre, au contraire du cheval, des armées romaines, et j'ai décrit cette volonté de paix. Mais j'ai aussi fait sentir ce voile d'unanimité déjà en train de se déchirer. Je ne renie pas ces prédications éphémères et envolées. sur justement l'éphémérité et la volatilité du soutien des foules, sur l'enthousiasme opportuniste, sur ce triomphe paradoxal d'une fête où plane déjà encore une fois l'ombre de la croix, mais sur laquelle plane aussi historiquement la destruction à venir 40 ans plus tard de Jérusalem, le sac de Jérusalem. Une fête, certes, mais, et il faut le noter quand on a l'habitude de lire les évangiles, une fête, certes, mais qui n'est pas illuminée de la lumière de la résurrection comme le sont nombre d'autres récits des évangiles. Une fête avec ce Jésus qui avance très lentement, par définition, sur un petit âne, un Jésus qui croit encore en sa mission d'aller délivrer le Dieu qu'il considère emprisonné au fin fond du temple de Jérusalem, Jésus allant délivrer finalement celui qu'il appelle directement son Père. Alors j'ai fait ça, j'ai prêché ça, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste fait de mon mieux pour faire vivre la scène, mais est-ce que j'ai annoncé l'Évangile ? Pour expliciter davantage mon propos, je reviens sur un détail que j'ai déjà évoqué, mais que maintenant je souligne. Luc ne cite pas la référence au prophète Zacharie, qui parle de l'âne sur lequel le Messie entrera triomphant à Jérusalem. Il ne le fait pas, je l'ai dit, parce qu'il juge que cela n'aura aucun effet sur son audience, ses lecteurs qui ne connaissent pas la référence, et d'autre part, leur rappeler à ses lecteurs qu'il existe une prophétie n'irait pas les convaincre davantage. En toute sincérité, et là j'approche du point difficile de ma prédication, cette référence, est-ce qu'elle nous convainc nous-mêmes ? Nous, a fortiori, qui vivons 2 millénaires plus tard, qui sommes réellement séparés du contexte dans lequel ce récit prenait son sens, sa source symbolique et culturelle. Mais la référence au prophète Zacharie n'est qu'un détail dans la description de la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Jérusalem, pour nous. Et même si nous avons notre version culturelle de Jérusalem, Jérusalem n'est pas, ne peut plus être, la version de Jérusalem dans laquelle ce récit s'enracine. La Jérusalem de ce récit est au centre absolu de toute la religion et de toute l'idéologie et de la culture. Pour nous, Jérusalem n'est pas au centre, ni de notre religion, ni de notre culture. Oh certes, bien sûr, nous pouvons comprendre que ce récit décrit Jésus entrant au centre, mais nous ne pouvons pas entrer avec lui dans ce centre. Nous ne pouvons au mieux que sentir cette histoire en train de se faire. Mais est-ce que nous pouvons la faire nôtre ? La référence au Messie victorieux, nous ne l'avons plus non plus. En toute sincérité, encore une fois, quelle notion du Messie avons-nous encore ? En quoi aujourd'hui, pour nous, la venue du Messie nous concerne-t-elle ? Qui croit finalement encore à la venue, voire à la nécessité du Messie ? Pour une grande partie d'entre nous, la religion est avant tout une éthique ou une morale du quotidien ou un secours dans les jours difficiles. Voilà la difficulté. Nous aurons beau essayer de comprendre véritablement, nous ne serons au mieux que capables d'expliquer, au mieux. Et c'est ce que font la plupart des prédicateurs. Ils expliquent avec plus ou moins de bonheur, et c'est ce que j'ai tenté de faire dans cette seconde partie et que je fais depuis 36 ans. Sauf, et ce sera ma dernière partie, sauf si nous allons plus loin que le récit, jusqu'à lui permettre de venir près de là où nous sommes. Déjà en relevant que les 4 versions de ce récit, si elles utilisent pour 3 d'entre elles la vertu supposée de la prophétie, vertu de preuve, vertu attestante, et pour les 4, si elles utilisent la référence au Messie qui vient sauver Jérusalem, toutes les versions laissent néanmoins planer l'ombre quand elles suggèrent le caractère étrangement joyeux de cette fête, quand tous ces récits placent cette fête dans un contexte immédiat soit de colère, soit de pleurs, soit de tristesse, soit de malédiction. Il faudrait donc admettre, et c'est là le point, que ces récits commencent à déconstruire le socle même sur lequel ils s'écrivent. Pour 3 des 4 évangiles, au moment où ce récit est publié, Jérusalem est déjà détruite. Comment les auteurs auraient-ils donc pu être dupes et surjouer la joie, à l'instar de tous ces rassemblements de personnes qui tiennent et agitent, dans le plus pur des contresens sympathiques, des branches, dans les églises, le dimanche des rameaux? J'ai vu un titre, « Le triomphe avant la croix ». Mais comment écrire ça sans prendre conscience de la vanité paradoxale de cette formule? Le triomphe avant la croix. Je n'aime pas le paradoxe, vous le savez. Rappelons-le, au moment où ces récits sont diffusés, et ça c'est positif, la résurrection est déjà annoncée dans tout le bassin méditerranéen, et l'évangile du Christ est déjà devenu, on dirait aujourd'hui, viral. Ce qui veut dire en fait que nous n'avons pas besoin de comprendre ce qui se passe, car ce qui est raconté ici, c'est en fait ce qui n'existe plus. Et ce qui existe toujours en revanche, c'est la bonne nouvelle qui se répand largement en dehors de Jérusalem et de son temple, temple dont il ne reste quasi rien. Nous avons donc l'autorisation de ne pas faire semblant de nous réjouir lors de la fête des rameaux. Et nous sommes aussi autorisés à ne pas être sensibles à la réalisation d'une prophétie, d'un prophète pour nous devenu obscur, dont nous n'avions jamais vraiment entendu parler, et que nous n'avons jamais lu, et que sans doute nous ne lirons jamais. Zacharie. Mais cela ne veut pas dire, même si Jérusalem n'a plus le sens évoqué dans ce texte, que nous n'aurions, nous, plus de centre vers lequel ce Messie particulier pourrait s'approcher. Cela ne veut surtout pas dire que nous ne devrions pas nous réjouir. Est-ce que nous n'avons pas besoin, nous aussi, d'une délivrance qui vient? Hosanna, ça veut dire sauve-moi. Sauve, comme vous l'avez entendu dans les cantiques qui précédaient. Ce Messie, est-ce qu'on va le laisser nous approcher? Nous pouvons, si cela nous aide, continuer à l'imaginer sur un petit âne délivré de sa future tâche de bête de somme. Et c'est très beau ça. Mais celui qui est sur cet âne, il est déjà ressuscité, vraiment ressuscité. Alors, avions-nous compris que Jérusalem, c'est désormais nous-mêmes?
Thank you. invite à vous lever, à prendre votre feuille de culte, pour que nous puissions tous ensemble confesser notre foi. Je crois que l'Éternel parle aux humains par son Christ. Je crois que Jésus actualise la parole qui fait vivre. Lorsque j'ai peur, lorsque j'ai froid, je me souviens. La Bible proclame la promesse d'amour pour la vie du monde entier. Je croise au don d'une puissance qui recrée dans un souffle subtil et léger, souffle de communion et de pardon. Et je vous invite à rester debout et à prendre cette fois vos recueils de cantiques. Nous allons chanter le cantique 4202 qui se trouve dans vos recueils à la page 622. Nous en chanterons les trois strophes, le cantique 4202.